restez à l'écoute des RFI, 21h à Paris, 20h temps universel.
Paul Lancin-Spinelli.
Des scènes de liesse à Tel Aviv comme à Ramallah, dans la ville de Cisjordanie occupée. Des milliers de personnes se sont réunies pour accueillir plusieurs des 200 prisonniers palestiniens relâchés dans le cadre de l'accord de trêve en vigueur entre le Hamas et Israël à Gaza. Côté israélien, c'est la libération de 4 soldats par le groupe islamiste qui a été célébrée. Reportage à suivre de notre envoyé spécial Nicolas Falaise. Une errance dangereuse pour les migrants renvoyés des États-Unis à la frontière mexicaine, selon la directrice Mexique de l'ONG Amnesty International que vous allez entendre. Ces personnes vulnérables font régulièrement l'objet de disparitions forcées. L'Union africaine et l'Union européenne appellent à la désescalade dans l'est de la République démocratique du Congo, minée par des affrontements intenses entre l'armée congolaise et ses alliés face au M23 soutenu par l'armée rwandaise. Et puis en basket, la fête gâchée pour Victor Wembanyama. Son équipe des San Antonio Spurs s'est lourdement inclinée ce soir face aux Indiana Pacers dans le deuxième match délocalisé à Paris. Une joyeuse et bruyante cohue dans les rues de Ramallah. Des milliers de personnes se sont rassemblées dans cette ville de Cisjordanie occupée pour accueillir des prisonniers palestiniens libérés un peu plus tôt par Israël. Au total, 200 personnes sont sorties des geôles israéliennes. C'est ce qui était prévu par l'accord de trêve à Gaza avec le Hamas. En échange, 4 soldats israéliennes ont, elles, été relâchées par le groupe islamiste aujourd'hui. Et là aussi, en Israël, le soulagement était palpable. Nicolas Falaise.
Nous sommes si heureuses qu'elle rentre à la maison. Nous avons attendu si longtemps.
Tahir et ses amis laissent éclater leur joie sur cette place de Tel Aviv où elles ont suivi chaque étape de la libération des otages. Toutes portent un t-shirt jaune qui montre qu'elles ont servi dans la même unité de l'armée que les 4 israéliennes libérées ce matin.
Ça serait difficile de vivre un moment comme celui-là, chacune seule à la maison. Donc, nous avons décidé de nous rassembler et de suivre tout ça d'ici, sur la place. Nous avons besoin de ça. C'est quelque chose dont nous avons toutes rêvé depuis 15 mois.
Les 4 jeunes soldates libérées ce matin appartiennent à une unité de guetteuses, les Tatzpitaniotes, celles-là même qui n'ont pas été écoutées alors qu'elles signalaient des mouvements étranges dans la bande de Gaza juste avant les attaques du 7 octobre 2023. Pour Tahir, cela aussi renforce le lien avec les 4 soldates libérées.
Nous avons toutes vécu une situation où personne ne nous a écoutés, ce qui a causé des problèmes. C'est pour cela que nous disons, cela aurait pu nous arriver le 7 octobre, aurait pu se produire pendant notre service. C'est ce qui nous rapproche et c'est pour cela que nous les appelons nos petites sœurs. Elles sont nos petites sœurs.
Nicolas Falaise, Tel Aviv, RFI.
Et sur un autre front, dans le sud du Liban, cette fois, l'armée libanaise accuse Israël de tergiverser pour se retirer. Les soldats libanais se disent prêts à poursuivre leur déplacement pour occuper la zone, conformément à l'accord de cessez-le-feu signé entre l'État hébreu et le Hezbollah libanais, qui était entré en vigueur fin novembre. Ils sont rentrés dans leur pays, menottes au poignet. 88 Brésiliens ont été expulsés des États-Unis au mépris des droits fondamentaux, s'est insurgé le ministère brésilien de la Justice aujourd'hui. Les méthodes de mise en œuvre de cette politique anti-immigration de Donald Trump qui interroge donc. Certains de ces migrants restent également bloqués à la frontière mexicaine. C'est une zone très dangereuse pour eux. Ils sont régulièrement la cible d'enlèvements sur place, comme l'explique la directrice d'Amnesty International Mexique, Edith Olivares.
Malheureusement, le Mexique n'est pas un territoire sûr, ni pour les personnes qui y vivent, ni pour les personnes qui y transitent. Celles-ci arrivent dans une situation de grande vulnérabilité en raison de leur statut de sans-papiers. Ils entrent dans le territoire mexicain en provenance d'Amérique centrale. Nous voyons de plus en plus de personnes originaires d'Haïti ou du Venezuela qui entrent sans-papiers. Ils sont introduits dans le pays par des passeurs appartenant au crime organisé. Dans de nombreux cas, ils sont forcés de travailler comme esclaves dans différentes activités, y compris dans le trafic de drogue. La plupart des personnes qui disparaissent dans ces circonstances ne sont pas rapidement identifiées. Si une mère se trouve dans un pays d'Amérique centrale et que son fils passe par le Mexique en route pour les États-Unis, elle peut apprendre sa disparition des mois ou des années plus tard. Lorsque l'on prend des décisions décisions comme celle que prend actuellement le président Trump, c'est la vie de milliers de personnes qui est directement menacée.
En este momento, el presidente Trump está afectando directamente la vida de miles de personas.
Edith Olivares, jointe par Melissa Barra. Au Mexique, 121 000 personnes sont considérées comme disparues et 60 000 corps de personnes non identifiées ont été comptabilisés. Des appels à la retenue qui s'enchaînent pour tenter de contenir la violence dans l'est de la République démocratique du Congo. Cet après-midi, l'Union africaine a appelé à une cessation immédiate des combats. Dans un communiqué, l'Union européenne, elle, exhorte le M23 à cesser son avancée et à se retirer immédiatement. Et répète que le Rwanda doit cesser, lui, de soutenir le groupe rebelle qui combat l'armée congolaise et ses alliés. Kigali, qui, de son côté, critique la rhétorique incendiaire, je cite, de la MONUSCO. La mission des Nations Unies en RDC avait indiqué hier avoir engagé son unité d'élite dans les combats et demandé aux parties de trouver une solution pérenne et finale à ce conflit. Un incontournable des tables japonaises qui tire la langue. Le riz a atteint des prix extrêmement élevés dans le pays. En fait, l'emballement touche de nombreuses denrées alimentaires. La Banque centrale a donc décidé de relever hier ses taux à leur niveau le plus haut depuis 17 ans pour tenter une nouvelle fois d'endiguer l'inflation qui reste au-dessus de l'objectif des 2%. Mais c'est donc bien le cas de cette céréale symbolique qui inquiète tout particulièrement Nathanaël Vitran.
Le prix du riz au Japon a augmenté de 60% en un an. Une hausse considérable pour ce qui reste le principal aliment de base des Japonais. Pour tenter d'inverser la tendance, le gouvernement s'est donc dit prêt à vendre une partie de ses réserves stratégiques de riz, destinées normalement à permettre au pays de faire face à une situation d'urgence. Des réserves qui représentent 1 million de tonnes, soit 1/7 de la consommation annuelle du Japon. Une mesure impopulaire auprès des agriculteurs japonais qui soulignent que l'inflation des prix reflète l'augmentation de leurs coûts de production. Le ministre de l'Agriculture a tenté de les convaincre qu'une baisse des prix était aussi dans leur intérêt, soulignant le risque de voir les Japonais se détourner à long terme du riz au bénéfice d'aliments meilleur marché comme le pain. La situation doit aussi au fort protectionnisme du Japon, avec des tarifs de douane très élevés sur les importations de riz venues de l'étranger.
Nathanaël Vitran, en France, 7 personnes ont été mises en examen aujourd'hui pour leur implication supposée dans l'enlèvement et la séquestration du fondateur d'une plateforme de crypto-monnaie. David Ballan, créateur de l'entreprise Ledger, avait été enlevé avec sa compagne mardi dans le centre de la France. Les ravisseurs avaient réclamé une rançon de plusieurs millions d'euros en crypto-monnaie. Les suspects ont été placés en détention provisoire. En France toujours, c'est un rendez-vous presque immanquable pour les fans de découvertes musicales. À la finale de la Star Academy se joue ce soir. Cette émission de télévision voit s'affronter des talents qui rêvent de faire décoller leur carrière. Le programme est aussi très commenté sur les réseaux sociaux avec cette année de nombreuses dérives. L'une des candidates des deux candidates finalistes, Ebony, originaire de Guadeloupe et Martinique, a été victime d'attaques racistes. Deux associations, SOS Racisme et la Maison des Potes, ont donc décidé de déposer plainte et de rendre publique cette information, une option qui peut s'avérer fructueuse pour remonter jusqu'aux auteurs, selon Samuel Thomas. Il est le président de l'association La Maison des Potes.
En France, il n'y a pas beaucoup d'affaires qui aboutissent si elles ne sont pas prises en main par les associations antiracistes. Et les forces antiracistes n'ont pas les moyens de mobiliser leurs services juridiques pour tous les signalements qui mériteraient une poursuite. Donc ça veut dire que là, on s'en remet à la police, au commissariat, au procureur de la République. Et là, la police, le commissariat, etc., considèrent que si l'auteur n'est pas désigné avec sa vraie identité par le plaignant, on va pas aller faire des investigations pour aller l'identifier et le retrouver. Donc, quand il faut faire des investigations pour chercher quelqu'un qui se cache derrière un pseudonyme, les plaintes, le plus souvent, n'aboutissent pas. Et donc, c'est uniquement sous la pression médiatique que ces plaintes-là peuvent aboutir, parce que le parquet, à ce moment-là, va se sentir obligé de considérer qu'il y a un trouble manifeste à l'ordre public et il va mobiliser des effectifs pour aller chercher l'identité des personnes derrière leur pseudo.
Samuel Thomas. Et puis en basket, une deuxième soirée parisienne frustrante pour Victor Wembanyama, la pépite française. Des San Antonio Spurs a quand même inscrit 20 points, mais son équipe s'est finalement lourdement inclinée, 136-98 face aux Indiana Pacers ce soir. Les Spurs avaient remporté le premier match parisien jeudi. Les deux équipes repartent donc, bonnes amies, vers les États-Unis avec une victoire et une défaite chacune. RFI, 21h10 à Paris.